Bangladesh en Macronie. Oui, on a faim. À cause de ces bandits, y a plus rien pour les petits. Oui, on a faim. À cause de ces ordures, faut se serrer la ceinture. Oui, on a faim. Mais nous, on les emmerde, on va pas crever de faim. Oui, on a faim. Oui, on a faim. Oui, on a faim. Oui, on a faim. On a faim. On a faim. On a faim. On a faim.
Le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler du livre de Marie Charel, Qui a peur des vieilles. C'est paru dans les éditions Les Pérégrines dans la collection Genre. C'est un livre un peu étrange. Étrange parce qu'il a des changements de ton assez bizarres. Marie Charel est apparemment une journaliste économique du Monde et une romancière. Elle n'a pas tellement décidé quel ton elle allait utiliser dans son livre, qui ici on le considère sous le point de vue d'une enquête journalistique et très bien fait, sous l'angle d'un livre, un peu, on va dire un peu conceptuel sur qu'est-ce que c'est que la réaction sociale ou la vision sociale de la vieillesse chez les femmes. C'est un peu mou, mais ça reste extrêmement intéressant. De temps en temps, il y a des énormes faiblesses stylistiques où on a l'impression qu'on lit Cosmopolitan. Mais, malgré tout, l'ensemble est intéressant, d'autant plus que les livres sur le sujet spécifique, non pas de la vieillesse, mais de la vieillesse des femmes, eh bien, ce sujet-là a été fort peu traité. Et donc, ce livre est tout à fait le bienvenu, malgré ses quelques faiblesses. Pour vous donner un exemple de ce qu'il y a de mieux dans ce livre, je vais lire quelque chose qui est plutôt sur la fin, mais qui est un texte qui me semble magnifique. Nous, bâtir une sororité. Ce mot est aujourd'hui tant employé qu'il perd parfois son sens. Certaines le jugent risqué, estimant qu'il renvoie les femmes à leur sexe, à leur essence féminine, une impasse. D'autres soulignent que non, nous ne sommes pas toutes des sœurs. Les bourgeoises blanches le sont peut-être entre elles, mais les conditions des noirs, des métisses, des femmes des classes populaires sont très différentes. Elles ont trop peu en commun avec les premières pour que le mot de sororité suffise à les rassembler. D'autres encore ont dévoyé le sens de la sororité à des fins marketing. Il en va hélas ainsi des effets de mode. L'utopie douce d'un « toute sœur » peut facilement sombrer dans la superficialité si elle reste déclarative, sans être soutenue par du concret. À l'origine, pourtant, le mot est fort. Sororité, du latin soror, sœur. Autrefois utilisé pour désigner des communautés de religieuses, il est tombé en désuétude au XVIe siècle, avant de ressurgir aux États-Unis, dans les mouvements féministes des années 1970, sous le terme « sisterhood », puis de traverser l'Atlantique. Est-il la traduction au féminin de « fraternité » ? Non, du moins pas si l'on interprète le mot « fraternité » comme une valeur universelle rassemblant les êtres humains, quel que soit leur sexe. Pour éviter toute ambiguïté, certaines féministes suggèrent de remplacer le mot « fraternité » par celui d'adelphité, plus neutre, dérivé du grec « adelphos », désignant les enfants, frères et sœurs, nés de la même mère. Adelphité plutôt que fraternité, donc, pour évoquer, en France, ce lien profondément républicain. Et qui n'a rien de contradictoire avec une aspiration parallèle à la sororité. Car, sans adhérer nécessairement à la misandrie de Chloé Delhomme, on peut désirer aussi avoir des sœurs et des frères avec qui nouer des liens équitables et égaux, libres et libérés. Sororité et adelphité dans le même élan, aussi nécessaires l'une que l'autre, pour un monde plus juste. Cynthia Rich, elle, se méfiait de la sororité. Elle craignait qu'en sous-entendant une horizontalité d'âge entre les sœurs, elle ne soit porteuse d'agisme. Il est vrai que les luttes féministes, dans les années 1970, étaient largement clivées par des frontières d'âge. Comment, alors, construire un féminisme intergénérationnel ? Comment l'horizontalité de la sororité peut-elle inclure la notion de filiation ? Comment faire tomber les cloisons et la méfiance réciproque, l'amertume polluant parfois les relations entre les baby-boomers et les 20-trentenaires ? Trop souvent encore, les reliquats du patriarcat nous divisent, comme le souligne Sylvie Brunel dans son manuel. Ouvrez les guillemets. Nous sommes pourtant toutes dans le même bateau. À nous de refuser ces oppositions attisées par une lecture masculine de la société, insiste-t-elle. La fille, l'ado, la femme, la mère, la grand-mère. Il y a une unité entre tous ces âges, et je rêve de plus de bienveillance entre nous. Fermez les guillemets. De la bienveillance ? Possible, à condition de déconstruire quelques automatismes. Que les plus jeunes ne jugent pas ringarde et périmée l'expérience des aînés. Que les aînés ne méprisent pas les plus jeunes en raison de leur possible naïveté, leur inexpérience et, parfois, leur arrogance. Que l'écart d'âge ne bâtisse pas de nouvelles dominations, mais une mobilisation commune et de l'échange. Que les femmes luttent contre ce que l'on pourrait appeler le syndrome de l'unique. Beaucoup l'ont expérimenté, à divers degrés, être la seule fille entourée d'hommes, dans la sphère amicale ou professionnelle, et parfois grisant, flatteur, être au centre de l'attention masculine, ou bien pouvoir se targuer d'être la seule femme parvenue à se hisser dans un cénacle réservé aux hommes, voilà qui est confortable. Quelquefois, c'est une fierté. Certaines n'ont pas envie de partager ni de tendre la main à d'autres. Tant pis pour la sororité. Trop souvent encore, les femmes se méfient les unes des autres, cultivent des rivalités ou des vanités stériles. C'est vrai, mais les hommes ne se tendent pas spécialement l'échelle non plus entre eux. Pourquoi les femmes seraient-elles forcément plus vertueuses qu'eux en la matière, glisse une consultante spécialiste de la parité à propos du monde de l'entreprise. Parce que les hommes, eux, ont beaucoup moins de risques de souffrir du syndrome de l'unique. Parce qu'ils n'ont pas à lutter contre les stéréotypes et le plafond de verre durant toute leur carrière. Parce que rien n'oblige les femmes à reproduire et subir les codes mesquins de la compétition virile, ni l'ironie méprisante qu'il est de si bon ton d'afficher, dans notre pays, à l'égard de tout ce qui est supposé relever de la faiblesse. Elles sont libres de leur préférer d'autres valeurs, l'empathie, la gentillesse, la gratitude. Elles sont libres de privilégier l'entraide et la défense des plus fragiles, de choisir la bienveillance plutôt que la méfiance à l'égard des inconnus et des rivales d'autrefois, des aînés comme des plus jeunes. Et si on essayait ? C'était un duo de Laufensteiner, un duo pour guitare. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est toujours le Proton sur Rebif. Et nous allons continuer à parler du livre de Marie Charelle qui a peur des vieilles. Un autre bon texte est une partie de l'avant-propos de ce livre. En 1970, Simone de Beauvoir publiait un essai sur la vieillesse dont l'écho fut bien moindre que celui du deuxième sexe. Elle y décrit la vieillesse comme un fait culturel, pas seulement biologique, dont les conséquences sont très différentes pour les femmes et pour les hommes. 50 ans plus tard, les lignes ont à peine bougé au regard de ce que l'on aurait pu espérer de la révolution féministe. Au regard surtout de l'évolution de la population, les femmes de plus de 50 ans sont une force démographique montant en puissance. En 2019, l'espérance de vie est de 85,6 ans pour les femmes contre 79,8 ans pour les hommes, contre guère plus de 45 ans en 1900 selon l'INSEE. Au 1er janvier 2019, les femmes représentent 51,6% de la population en France. Elles sont 2,2 millions de plus que les hommes, et ces derniers sont largement minoritaires aux âges avancés. Ils constituent seulement 43,1% de la population des 65 ans ou plus, et 38,9% des personnes de 75 ans ou plus. Début 2019, 12 700 femmes sont centenaires en France contre seulement 3 000 hommes. Alors, pourquoi cette opprobre persistant sur l'âge des femmes? Pourquoi ce regard toujours ambivalent sur la vieillesse objet tantôt de respect, tantôt de rejet? C'est que la société, c'est-à-dire nous tous, n'est pas à une contradiction près. Elle vieillit, mais vénère une jeunesse qui lui ressemble de moins en moins. Elle nous enjoint de nous accepter tels que nous sommes, mais aussi à rentrer dans la norme. Elle prie les femmes de ne pas tricher, de se montrer authentiques, mais elle survalorise celles qui savent rester minces, jolies et paraître jeunes. Elle se lamente sur sa jeunesse sacrifiée, sur l'autel des crises économiques et des jobs précaires comme sur ses anciens, remisés dans les EHPAD pour y mourir. Mais elle ne se bouge vraiment ni pour les premiers, ni pour les seconds. Et pourtant, si elle déplore le fait d'être moins regardée, invisibilisées, mises de côté, beaucoup des femmes de plus de 50 ans rencontrées pour l'écriture de ce livre se réjouissent également d'être plus libres, plus heureuses. Elles se connaissent mieux, font état de certitudes plus solides, ne regrettent rien du vacillement de leurs 20 ans. Certains hommes les ignorent désormais, mais bien souvent, elles sont plus sûres de leurs désirs et de leur corps. Elles ont les deux pieds bien ancrés, permettant à leur esprit de naviguer avec plus de fougue encore. Et si ces constats, à première vue contradictoires, étaient les deux faces d'une même pièce? Et si l'invisibilité et la mise de côté des femmes mûres étaient, en vérité, la conséquence de cette liberté? Mais qui donc a peur des vieilles? J'utilise ici ce mot, vieille, avec une once de provocation, jouant volontairement avec les clichés, pour désigner toutes celles qui, approchant la ménopause ou la dépassant, prennent conscience, avec plus ou moins de légèreté, du double standard décrit par Susan Sontag. Quelle est la source de cette peur? Leur liberté est-elle réelle ou fantasmée? Comment l'atteindre? Pourquoi est-elle encore si dénigrée lorsqu'elle s'exprime? Pour quelle raison, à un moment donné, les fillettes cessent-elles d'aspirer à devenir comme leur grand-mère, comme leur grand-mère en grandissant, soudain angoissée devant les rides? Je me suis plongé dans les livres et témoignages de moins en moins rares, abordant l'avancée en âge des femmes sous les angles sociologiques, cinématographiques, biologiques, littéraires, culturels. J'ai rencontré des écrivaines, des comédiennes, des chercheuses, des psychologues, des médecins, des sportives. J'ai surtout échangé avec des femmes et des hommes de toute la France. De ces entretiens, le plus frappant est sans doute le décalage entre les stéréotypes sur les femmes ménopausées et la réalité de ce qu'elles vivent et sont. Comme si l'image sociale et les préjugés avaient toujours un cran de retard sur les faits. Comme si nous vivions un moment de basculement avec toutes les ambiguïtés, contradictions et possibles retours en arrière que cela implique. À l'ère post-MeToo, à l'ère où jamais l'on a autant parlé du corps féminin, la question de l'âge, prochaine frontière, commence à percer dans le débat. Les tabous tombent doucement. Ils sont encore nombreux. Or, c'est une conviction, la place des femmes, quel que soit leur âge et leur ride, est l'affaire de tous. Ouvrez les guillemets, la vieillesse permet une interrogation en retour sur les normes et les valeurs des sociétés, fermez les guillemets, écrit la sociologue Rosemary Lagrave. Au fil de ces pages, il y aura beaucoup de questions, mais pas toujours des réponses. Il y aura plusieurs détours par le cinéma, les séries, les livres. Quelques incursions aussi du côté de l'histoire, de l'anthropologie et de l'archéologie. Il y aura surtout des rencontres, parfois improvisées et inattendues, toujours surprenantes, au gré des hasards, des portes entrouvertes, mais aussi de celles restées fermées. Car beaucoup de femmes peinent à mettre des mots sur les bouleversements liés à l'avancée en âge, ou refusent de le faire, de peur de voir leur image associée à la vieillesse, surtout quand elles sont des personnalités publiques. Mais lorsqu'elles acceptent de se livrer, le voyage se révèle aussi riche qu'exaltant. Bienvenue au pays des rides heureuses. C'était encore un duo de Laufensteiner dans l'album Duet Concertant. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Nous sommes sur Le Proton se rebiff, nous parlons du livre de Marie Charelle qui a peur des vieilles. L'une des choses étonnantes qui arrive aux femmes vieilles, c'est que elles se plaignent, à raison, qu'on ne les voit plus. On ne les regarde plus, mais même on ne les voit plus. Et Marie Charelle nous donne une petite anecdote qu'elle a vécue qui est extrêmement instructive à cet égard. Je commence à lire. Sam a 61 ans. Je l'ai rencontré par le biais de connaissances communes au cours d'un dîner. Son assurance m'avait beaucoup impressionné. Elle m'impressionne toujours. C'est lorsque je lui demande, au restaurant, ce que vieillir signifie pour elle qu'elle me fait cette proposition. Une petite expérience, ça te tente ? Difficile de refuser. Voilà ce qu'on va faire. Poursuivons le repas comme si de rien n'était et guette la réaction des autres tables la prochaine fois que je ris. Oh, le rire de Sam. Une cascade jaillissant de la montagne au printemps. Une poignée de diamants jetés au sol. Un poème en soi irrésistible. La voix et les intonations de mon amie se font plus juvéniles quand elle rit. Elle monte dans les aigus, gagne en fraîcheur. Elle redevient une fillette rigolant à gorge déployée devant les bêtises de ses copines. Nous entamons l'entrée, buvons trop. Lorsque le plat principal arrive, Sam part dans l'un de ses fameux fous rires, joyeusement tonitruants. Les convives des autres tables se retournent. Leur regard se pose sur moi. Ils me dévisagent un instant, froncent les sourcils, jette un œil autour avant de se fixer, incrédule, sur Sam. Tu as vu? Il pense que ce rire de gosse vient de toi, la jeune, forcément. C'est pas par méchanceté. Il ne me voit pas tout de suite parce que je suis invisible. Je ne capte plus la lumière, alors que toi, si. Leur regard glisse sur moi. Vieillir, c'est ça. Enfiler la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Disparaître. Passer de l'autre côté du miroir. Voilà qui est curieux. Pour évoquer l'avancée en âge, Sam ne cite pas en premier lieu les rides, la fatigue, les cheveux blancs ou encore le mal de dos. Non, elle parle de cap d'invisibilité et de miroir. Cette invisibilisation, cette disparition dans le regard de l'autre, est aussi le point de départ de la réflexion de Barbara MacDonald, la féministe américaine pionnière de la pensée sur l'agisme outre-Atlantique dans son ouvrage « Look me in the eye ». Old Women, Aging and Ageism. Sa compagne, la féministe Cynthia Rich, avec qui elle a coécrit l'ouvrage, est plus jeune qu'elle, et observe aussi le lent processus d'invisibilisation qui touche les vieilles. Elle ne tarde d'ailleurs pas à s'engager à son tour contre l'âgisme. Ouvre les guillemets. Pour la première fois, Barbara a évoqué son malaise à propos de la façon dont elle se sent perçue par de nouvelles amies, vingtenaires ou jeunes trentenaires. C'est à moi qu'elle destine leur regard. Les questions lui sont moins souvent adressées. Lorsque nous sommes allés à la quincaillerie et qu'elle a posé une question à l'homme derrière le comptoir, c'est moi qui l'a regardé en répondant. Je termine ici la lecture de ce passage du livre de Marie Charelle. Et je voudrais dire quelque chose. Évidemment, ma voix le prouve. Moi, je suis un homme. Mais je suis un homme qui a plus de 60 ans. Et il y a quelque chose qui me fascine dans ce qu'écrit Marie Charelle, qui a 38 ans, donc qui n'est pas encore concernée par ce qu'elle appelle l'avancée en âge, et qu'on peut appeler tout simplement la vieillesse. Elle dit que Sam ne cite pas en premier lieu les rides, la fatigue, les cheveux blancs ou encore le mal de dos. C'est là quelque chose qui est dit par quelqu'un qui n'est pas encore vieille ou vieux. Moi, par exemple, qui suis maintenant vieux, les rides, ma foi, ça ne me concerne pas. J'en ai, hein. Mais je m'en contrefiche. La fatigue, oui, la fatigue. Disons que la fatigue devient différente. elle ne vient pas au même moment, c'est-à-dire qu'elle vient souvent un peu plus tôt, évidemment, que quand on est jeune. Elle est souvent moins intense que quand on est jeune parce qu'on se dépense moins quand on est vieux. Les cheveux blancs, ça dépend des gens. Les cheveux blancs, moi personnellement, j'avais déjà les cheveux blancs à 40 ans, et il y a énormément de femmes qui, elles aussi, ont des cheveux blancs, voire les cheveux blancs dès 40 ans. Quant au mal de dos, ma foi, je pourrais répondre à Marie Charrel que c'est l'un des nombreux maux et qu'il y a des tas de gens, il y a des tas de personnes vieilles qui n'ont pas mal au dos, mais qui ont mal aux genoux, aux hanches, aux articulations, etc., etc. Attention avec les symptômes, on va dire, de la vieillesse, qui varient beaucoup, non seulement, bien entendu, selon le sexe, mais tout simplement selon les personnes. Puisque Marie Charrel est journaliste, de loin, l'un des meilleurs aspects de son livre sont les témoignages qu'elle a recueillis au bout d'une enquête qui, visiblement, a été longue et peut-être difficile. J'en lis un qui m'a particulièrement frappé. Il s'agit d'une femme appelée Bernadette et qui est responsable de médiathèque. Elle a 60 ans. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge pour être vieux. C'est insensé comme réponse. Mais tout se passe dans la tête, même si les apparences du vieillissement marquent le corps. Si on a un moral d'acier, on fait avec. Et on continue à vivre sa vie comme on veut, à faire des projets. C'est essentiel, avoir une vie sociale. Mais on fait surtout en fonction de l'état de santé, et ça peut être désespérant, anéantir votre morale entre vouloir et pouvoir. J'ai lu récemment dans Les Gratitudes de Delphine de Vigan que vieillir, c'est passer son temps à perdre des choses. On perd la vue, l'ouïe, de la souplesse, des muscles, de l'autonomie, le sommeil, la tête parfois. Certaines choses sont inéluctables. On est obligé de les accepter. Mais ce n'est pas toujours facile de voir son corps se dégrader, sa peau se flétrir. Oubliez les mots. Perdre la mémoire, ça m'arrive parfois, comme ce matin. Je ne me souvenais plus du code des ordinateurs accessibles au public que l'on n'avait pas allumé depuis 4 mois. Je me dis que c'est lié à la fatigue, pour me rassurer. Mais si c'était le début d'autre chose? Vieillir, c'est regarder ses enfants vivre leur vie et se dire, moi aussi j'aimerais recommencer. Il y a une certaine mélancolie, l'angoisse aussi de ne pas savoir comment on va vraiment finir, en gardant toute sa tête ou en devenant sénile. Surtout, ne pas finir en maison de retraite. Ça me fait peur, terriblement. Je fais partie des femmes qui ressentent un décalage entre leur âge réel et l'âge ressenti. Ça a toujours été comme ça. Quand j'ai eu ma première fille, je la regardais, je me disais, j'ai 20 ans et j'ai déjà une belle petite fille. Sauf que j'avais 30 ans. C'est dans la tête, je crois. Il faut être debout, quoi qu'il arrive, ne pas se laisser dériver, être là pour les enfants, être dans l'action, aimer rire, et s'amuser dans son couple aussi. Il faut que ça soit réciproque, bien entendu. Autour de moi, on me dit toujours que je ne fais pas mon âge. Oh, ça fait plaisir, c'est vrai. Mais je ne l'explique pas vraiment. J'ai souvent en mémoire des choses de mon passé, des rencontres, les vacances avec mes parents, nos différentes maisons, les anciens flirts. Peut-être une certaine nostalgie qui aide à ne pas vieillir. On se souvient et on en rigole. Suivent quelques autres témoignages. Maï, masseuse, 56 ans. Prendre de l'âge, c'est gagner une place plus importante dans ma famille. Je ne suis plus la jeune mère à qui l'on dit comment faire. Je deviens celle qui donne des conseils aux plus jeunes. Certains jours, ça me plaît. J'essaie d'être dans la bienveillance. D'autres, ça m'horripile. J'ai peur de devenir une affreuse donneuse de leçons. Béatrice Copé-Royer, psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfance et l'adolescence, 68 ans. Le plus troublant est le décalage entre le corps et l'esprit. Le corps envoie des rappels, on est plus fatigué. Mais rien n'a changé dans la tête, ou si peu. Les enfants vieillissent aussi. Et cela nous renvoie inévitablement à notre âge. J'ai eu un fils à 21 ans, il a aujourd'hui 47 ans. C'est bientôt un homme mûr. C'est effrayant d'avoir un fils de 47 ans. Rose-Marie Lagrave, sociologue, 76 ans. Je suis vieille, oui, je revendique ce mot. La vieillesse, c'est d'abord le regard des autres. Je l'ai compris quand j'ai réalisé que le regard des autres me situait dans un ailleurs où, moi-même, je ne me situais pas. On devient passe-muraille. Les vieilles deviennent invisibles, sauf lorsqu'elles se situent à deux extrêmes, l'hyper-excentricité façon Brigitte Fontaine ou l'hyper-résistance à l'âge façon Jane Fonda grâce à divers artifices. Ces deux extrêmes dérangent ou fascinent, car ils déjouent la normalité. Geneviève de Fontenay, ancienne présidente du comité Miss France, 89 ans. Vieillir, c'est penser à la mort. Je sais que je vais finir dans la tombe. J'ai l'angoisse de la disparition car je ne crois en rien. 3 de mes 9 frères et sœurs sont entrés dans la vie religieuse, pas moi. Pour tromper mon angoisse de la mort, je m'occupe, je réponds aux interviews, je vais au contact des gens, c'est ma nourriture. J'ai un gros capital sympathie. Les personnes de toutes les conditions me saluent dans la rue. J'ai le sentiment que j'aurais laissé quelque chose. Catherine Millet, critique d'art et autrice, 73 ans. Prendre de l'âge, c'est être plus exigeante avec le désir. À 25 ans, j'avais un côté chien fou. Je voulais tout essayer, tester toutes les relations. Avec les années, le désir doit être vraiment très fort pour qu'une relation aboutisse, avec une plus grande attention au comportement de l'autre. Avec l'âge, je suis devenue plus consciente qu'une partie de ma séduction naît de ma position d'autorité. Plus on est regardé socialement, plus on est désiré. Aujourd'hui, à 73 ans, j'ai le sentiment d'être arrivé à l'âge où l'on ne fait plus tout à fait partie des contemporains, comme disait Claude Lanzmann, où l'on représente un bout d'histoire. Je le ressens auprès des jeunes avec qui je travaille lorsqu'ils me demandent conseil. Je porte la mémoire de l'art des années 1970-1990. J'ai plus d'amis femmes qu'autrefois, souvent plus jeunes. Elles voient en moi une référence, quelque chose de l'ordre de la transmission, même si je n'aime pas ce mot. Ce changement de statut me plaît. Et Marie Charelle de reprendre la parole. Dans ces témoignages, comme dans ceux cités plus loin, 5 éléments reviennent avec récurrence dans la définition de l'avancée en âge. Le premier est, bien sûr, la transformation du corps et le déclin de certaines capacités. Le second est le décès des proches, parents, amis, frères ou sœurs, imposant des réflexions sur la mort avec leur lot d'angoisse. Le troisième est la liberté que recouvrent certaines femmes, une fois détachées des contraintes familiales. Le quatrième, est le regard de l'autre, l'œil rappelant l'âge, parfois avec brutalité, quand il ne se contente pas de glisser sur la femme devenue passe-muraille. Cinquième, enfin, le vieillissement se traduit aussi par une certaine ambivalence et parfois même une relative confusion à l'égard de l'âge. Ouvrez les guillemets. Je me sens infiniment mieux qu'à 20 ans. Je détesterais retrouver le brouillard et la confusion dans lesquelles je me noyais à l'époque, confie ainsi Marie, 55 ans. En même temps, j'ai l'impression d'avoir 20 ans dans un corps de 55 ans, fermez les guillemets. Elle réfléchit un instant, et pour tenter d'apporter un peu de cohérence à ses propos, ajoute, ouvrez les guillemets, vieillir en somme, c'est tout, et son contraire. Ça dépend des périodes, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Je vous parle depuis ma maison du Poitou où j'ai grandi. Je me revois jouer à la dinette chez les voisins, raconte Sylvie avec une certaine nostalgie. Ce souvenir est encore très présent, comme si c'était hier, alors qu'il date de plus de 50 ans. Je suis encore cette petite fille, mais je suis aussi la femme d'aujourd'hui, fermez les guillemets. Dans son essai sur la vieillesse, Laure Adler écrit, ouvrez les guillemets. Je veux penser mon âge, mais en même temps plusieurs âges cohabitent dans le même instant. Je suis enfant quand, à 4 pintes avec mon petit-fils, je joue au Lego. Je suis ado lorsqu'à la radio, un tube de Johnny me donne envie de danser. Je suis toujours étudiante quand je m'installe pendant des heures dans une bibliothèque à la recherche d'archives inédites. Fermez les guillemets. Et là, Marie Charelle cite une phrase splendide de Victor Hugo. C'est pas étonnant, c'est de Victor Hugo. Le privilège de la vieillesse, c'est d'avoir tous les âges. Et là, si je peux me permettre d'ajouter à nouveau quelque chose de personnel, c'est effectivement l'une des surprises de la vieillesse, à nouveau, je suis dans mes 60 ans, que on ressent avec plus d'acuité cette présence des différentes personnalités que l'on a eues au cours de sa vie. On peut revenir jusqu'à un certain point dans son esprit d'enfant, dans son esprit d'adolescent, de jeune adulte, d'adulte. On se retourne beaucoup sur sa propre vie. C'est parfaitement compréhensible. Quand on est vieux, on sait pertinemment que le futur est étroit et que le passé, lui, est très large. toujours en provenance du merveilleux album Duet Concertante, alors Duet avec deux T, Concertante avec un K et un Z, une pavane et puis une gaillarde. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste Sans Dieu, Sans Maître et Sans Publicité, et le Proton se rebiffe parle du livre de Marie Charelle qui a peur des vieilles, paru aux éditions Les Pérégrines. Il y a un sujet fondamental quand on veut étudier les vieilles femmes, c'est la ménopause. Et là-dessus, ce que Marie Charelle en a trouvé, en particulier dans ses interviews, est absolument savoureux. En particulier quand, comme moi, on est un homme et que la ménopause, ma foi, on a un peu de mal à savoir ce que c'est. Donc, je lis un texte de la page 140. Au tout début, Patricia élude le sujet. « Oh, comme tout le monde, hein, c'est pénible, mais on s'en fiche. Un non-événement », dit-elle en agitant la main près de son visage, comme pour chasser un moustique. Elle a 58 ans et travaille au développement durable d'un grand groupe. Elle pianote sur son téléphone en évitant mon regard. À son sourire crispé, je devine que le sujet n'est pas aussi anodin qu'elle l'affirme. J'insiste un peu. La ménopause? Un non-événement? Ah oui, un non-événement. Au point que je l'ai caché pendant 10 ans à mon mari. Quoi? C'est qu'elle arrivait tôt. À 46 ans? 46 ans, tu imagines? Je voulais pas qu'il me voie comme une vieille. Surtout, je n'avais pas envie de lui expliquer que ça ne signifiait pas que j'étais vieille, justement. Alors, j'ai pris un traitement hormonal et continué à acheter des tampons. Et il n'a rien vu? Rien. Pendant 10 ans? Vers 55 ans, j'ai arrêté de renouveler le stock. Un jour, au détour d'une conversation, j'ai glissé « Oh, j'en ai plus besoin ». Il a dit « Ah, ok, chapitre clos. Un non-événement, je te dis. Tu n'aurais pas aimé partager cette transition avec lui ? Vous êtes proche. Il aurait pu t'aider. Ah, nous sommes proches, il m'aurait sans doute aidé. Mais après 25 ans de vie commune, on se connaît si bien qu'il est difficile d'entretenir la magie dans le couple. Le désir, la folie des débuts se sont évaporés. Lui épargner les détails peu glamour de la ménopause et de mon traitement hormonal était aussi une façon de garder un peu de mystère. Marie Charelle reprend la parole. Un non-événement, mais une omission d'une décennie et des centaines d'euros dépensés en tampons non utilisés, tout de même. En dépit d'un mari compréhensif et « moderne », selon ses propres mots, Patricia a choisi de lui dissimuler son état, minimisant du même coup son incidence sur sa vie. Un traitement hormonal n'est pourtant pas à prendre à la légère. C'est dire si aujourd'hui, la ménopause reste encore un objet de honte chez certaines femmes, mais pas toutes. Sylvie, elle, a eu ses règles jusqu'à 58 ans. « Je tirais une certaine fierté d'être réglée jusque si tard », raconte-t-elle. Aujourd'hui, elle habite son corps avec simplicité et aisance. Lorsque la ménopause arrive, on est contrainte d'accepter que la fertilité et la maternité, même si elles étaient déjà théoriques à cet âge, sont terminées. La page se tourne. Les hommes, eux, n'ont pas cette préparation au vieillissement. Beaucoup vivent dans l'illusion de pouvoir tout recommencer s'ils le veulent, avoir un enfant avec une femme plus jeune. Selon une enquête MGEN, Fondation des femmes, réalisée par Kantar en février 2020, 83% des Françaises de 50 à 54 ans sont ménopausées. Parmi elles, 60% estiment que leur état n'a pas à être pris en compte dans le cadre du travail. Elles craignent le regard stigmatisant et la réaction négative de leur entourage professionnel. Les hommes, eux, sont 47% à penser que l'entreprise devrait au contraire le prendre en compte. Ouvrez les guillemets. Chez moi, la ménopause a été un processus d'une dizaine d'années, très long et douloureux, avec des visions de mort terribles, raconte Yasemina Rossi, la mannequin senior. J'ai réfléchi, travaillé sur moi tout en me soignant avec des plantes. Un jour, j'ai fait le choix de tout voir en positif. J'ai des bouffées de chaleur? Super, j'ai moins froid. La ménopause est une fin? Non, c'est une renaissance et une formidable régénération si on accepte cette transformation. elle offre l'occasion d'une prise de conscience, de se reconnecter avec le monde sensible dont on est coupé depuis si longtemps. Fermez les guillemets. Rouvrez les guillemets pour un autre témoignage. Un enfer! Le feu en pleine nuit, les cheveux secs, la peau sèche, la libido à plat, témoigne pour sa part Laurence, 62 ans. Ah, je me suis senti vieillir d'un coup. J'ai pris 10 kilos. Et je ne comprends pas les femmes qui ont vécu cette période comme une libération. Elles mentent! Clairement, on bascule du côté des invisibles, sans parler des souffrances physiques réelles. Fermez les guillemets. Une renaissance? Un enfer? Un non-événement? D'une femme à l'autre, la ménopause peut être vécue de manière diamétralement opposée. Question de représentation, de milieu, mais aussi de symptômes, face auxquels les corps ne sont pas égaux. À 51 ans, l'écrivaine américaine Darcy Stenge a commencé à souffrir de bouffées de chaleur d'une grande violence. J'avais la sensation d'être en feu. Elle se documente sur le sujet afin de comprendre ce qu'elle traverse, mais est vite déçue. Dans la plupart des articles en ligne, cette transition est décrite comme très dure ou bien détaillée par le prisme d'une médicalisation excessive. Déçue, elle mène alors sa propre enquête, en interrogeant des dizaines de femmes, en réfléchissant à sa relation au corps, aux normes sociales et à notre lien perdu à la nature. Elle en tire un passionnant récit initiatique. Flash Count Diary, Menopause and the Vindication of Natural Life. Je me suis interrogé, pourquoi tant de honte autour de la ménopause, me raconte-t-elle au téléphone depuis New York. Parce qu'autrefois, les femmes dépendaient des hommes pour leur survie et donc de leur capacité à leur donner des enfants. Pour elles, la ménopause était un drame et un danger. Dans la société patriarcale, les femmes ménopausées ont peu de valeur, fermez les guillemets. Là, je reprends, moi, Nestor Potkin, la parole. Je voudrais rappeler un moment historique où la ménopause a eu son importance, à la fois pour la première personne concernée, la femme qui entrait en ménopause, et puis un petit peu pour l'histoire de France. Joséphine de Beauharnais, épouse de Napoléon Bonaparte. Joséphine était plus âgée que Napoléon. Et Napoléon, qui, malgré toutes ses protestations pseudo-républicaines, avait toujours pensé fonder une dynastie, donc avoir un héritier, donc avoir une femme capable d'avoir des enfants. Napoléon était certes amoureux de Joséphine, mais il commençait à trouver le temps long parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Joséphine, elle, avait parfaitement compris la raison. Elle n'avait plus de règles, donc elle était ménopausée, elle n'aurait plus d'enfants. Alors, pour tenter désespérément de retenir Napoléon, elle a triché. Elle exigeait de ses servantes qu'elle leur donne leur serviette tachée de sang. Et puis, Napoléon a commencé à se douter de quelque chose. Il a pris probablement les servantes dans un coin de porte en leur disant « Bon, alors ?» Et quand il a compris que Joséphine n'avait plus ses règles et donc n'aurait plus d'enfants, eh bien, il a pris cette décision de divorcer de Joséphine et d'épouser une princesse autrichienne, et chacun sait que les princesses autrichiennes étaient garanties fertiles. C'est d'ailleurs ce qui va lui arriver. Je reviens au livre de Marie Charelle et je continue sur cette même page où nous nous étions arrêtés, c'est la page 144, c'est Marie Charelle qui continue à parler. Au détour de son enquête, Darcy découvre que l'orque est l'un des rares mammifères à connaître également la ménopause, ouvrez les guillemets. La grand-mère orque devient alors chef de son clan. Enfin, j'apprenais une chose positive sur la ménopause. L'orque est devenu mon animal totem. Il m'obsédait. Il m'a aidé à comprendre que nous ne sommes pas des esprits purs, nous sommes d'abord des animaux et des corps, fermez les guillemets. De nombreuses découvertes l'ont surprise au cours de ses recherches, à commencer par le discours médical sur la fin des règles, ouvrez les guillemets. J'ai assisté à un congrès sur ce thème à Amsterdam. Les médecins, pour l'essentiel des hommes, parlaient de la ménopause comme d'une maladie. Oh, ils détaillaient des troubles associés, comme le vagin sec et hypertrophié. Ils évoquaient notre anatomie du point de vue des sensations des hommes comme un fourreau à pénis, jamais du point de vue des femmes. Fermez les guillemets. De plus en plus d'hommes sont informés sur le sujet et soutiennent leur compagne dans cette transition lorsqu'elle en a besoin. Mais il y a encore du boulot à abattre en termes de pédagogie. Ouvrez les guillemets. Un bon tiers des femmes que j'ai rencontrées sont en colère contre leurs maris, leurs enfants, les médias, qui se moquent des bouffées de chaleur, en font un sujet léger et ridicule, de plaisanterie dérisoire, alors que ce n'est vraiment pas drôle à vivre. Est-ce qu'on se moque des personnes souffrant des suites d'un AVC ou d'une attaque? Non, c'est très misogyne, s'emporte Darcy. Revenons un instant sur cette histoire d'orque ménopausée matriarche. En 2015, un groupe de biologistes a publié une étude sur le sujet, en étudiant 751 heures de vidéos. Les données du Center of Whale Research de Washington sur 35 années, en observant 102 orques sauvages du Pacifique et en suivant 9 épisodes migratoires de saumons royaux, le repas favori de l'orque. Ils ont dressé ce constat. Les femelles orques ménopausées font d'excellentes meneuses. Elles sont détentrices d'un savoir précieux pour la survie du groupe et sont capables d'aider les plus jeunes à trouver de la nourriture, en particulier les années où les saumons se font plus rares. Elles vivent, en outre, bien plus longtemps que les mâles, jusqu'à 90 ans contre 50 ans en moyenne pour ces derniers. La théorie classique du cycle biologique indique que la ménopause ne devrait pas survenir, puisque la sélection naturelle ne devrait pas favoriser la vie après la fin de la reproduction, expliquent les biologistes ayant rédigé l'étude. Pourtant, les femmes humaines vivent en moyenne 30 ans après la fin de l'âge reproductif. Fermez les guillemets. Soit le même constat que pour les orques ou encore les baleines pilotes, l'autre seul mammifère ménopausé. Ouvrez les guillemets. Nos travaux montrent que les femelles post-productrices peuvent améliorer la condition physique de leurs proches grâce au transfert de connaissances écologiques. La valeur tirée de la sagesse des aînés peut contribuer à expliquer pourquoi les femelles orques et les humaines continuent de vivre longtemps après avoir cessé de se reproduire, fermez les guillemets, peut-on lire dans cette étude. Précision. Les biologistes parlent ici des humaines d'avant la révolution du néolithique. Vivre au-delà de 60 ans dans des populations de chasseurs-cueilleurs était plus courant qu'on ne le croyait auparavant, explique-t-il. Les enfants des vieilles chasseuses-cueilleuses se reproduisaient plus tôt et plus fréquemment. Elles aidaient leurs proches en partageant la nourriture et surtout en partageant une autre denrée clé, l'information. Avant l'invention de l'écriture, le savoir détenu par les anciennes était essentiel à la survie du groupe. Les personnes les plus âgées et les plus expérimentées étaient les plus susceptibles de savoir où et quand trouver de la nourriture, en particulier dans des conditions dangereuses et peu fréquentes, telles que la sécheresse. C'est fou ce que l'on peut apprendre en observant un orque chasser le saumon. On parle de ménopause, mais de quoi s'agit-il au juste ? De l'arrêt de la sécrétion d'estrogène et de progestérone par l'ovaire et de la fin de la fertilité, résume la gynécologue Anne Gompel, coordinatrice du diplôme d'études spécialisées en gynécologie médicale de l'Université Paris-Descartes, également présidente du Collège des enseignants de gynécologie médicale. La fin du cycle ovarien et l'épuisement du stock de follicules sont associés à la féminité dans les imaginaires. Le terme de ménopause me semble inapproprié. Il donne l'idée d'un basculement définitif dans un autre état. Je préfère parler de transition ménopausique, plus juste, car il s'agit d'une phase transitoire. Celle-ci s'accompagne de troubles divers, tels que les sueurs nocturnes ou la fatigue. Chez certaines femmes, elle est très courte et peu symptomatique, chez d'autres, elle est longue et douloureuse. On le sait encore peu. Mais les hommes voient eux aussi les hormones chuter avec l'âge. En l'occurrence à testostérone. Il s'agit de l'andropause, mais ce phénomène est moins marqué que la ménopause, plus étalé dans le temps, et très variable selon les hommes, puisque certains conservent un niveau relativement élevé de testostérone. Mais tout de même, pourquoi fait-on tout un foin de la ménopause et pas de l'andropause? Un coup d'œil à l'histoire révèle que le statut des femmes ménopausées a beaucoup varié selon les cultures, les continents et les siècles, avec pour nœud gordien la représentation du sang menstruel, éternel objet d'inquiétude, de fascination, de dégoût et d'interrogation. Ainsi lit-on dans l'Ancien Testament, « Quand une femme est atteinte d'un écoulement, que du sang s'écoule de ses organes, elle est pour 7 jours dans son indisposition et quiconque la touche est impur jusqu'au soir. Tout ce sur quoi elle s'est couchée en étant indisposée est impur, et tout ce sur quoi elle s'est assise est impur. Quiconque touche son lit doit laver ses vêtements, se laver à l'eau, et il est impur jusqu'au soir. Quiconque touche un objet où elle s'est assise doit laver ses vêtements, se laver à l'eau, et il est impur jusqu'au soir. La liste des recommandations et interdits se poursuit en longtemps encore, longue comme le bras. Sacré problème, les règles. Mais, dans certaines cultures, le regard change lorsque le flux s'interrompt définitivement. Chez les Amérindiens Mohaves, par exemple, la ménopause est une étape vers l'épanouissement sexuel. La femme continue à rester dans le courant de la vie, ses mains pleines de travail, sa maison pleine de petits-enfants, sa tête pleine de la sagesse de l'expérience, ses bras souvent pleins d'un jeune mari ou amant, son œil rayonnant, sa langue prompte à la répartie et pas du tout gênée, de flirter avec un homme assez jeune pour être son petit-fils. Dans certaines sociétés traditionnelles, la ménopause est même synonyme de pouvoirs accrus, comme chez les Barouya de Nouvelle-Guinée. Les Samous, au Burkina Faso, jugent en revanche que les femmes ménopausées toujours actives sexuellement sont susceptibles d'attirer le mauvais œil sur le groupe. Dans les campagnes irlandaises des années 1960, certains pensaient encore que la ménopause pouvait conduire les femmes vers la folie. Ouvrez les guillemets. Pour ce qui est de l'Asie, dans le Japon traditionnel et jusqu'à récemment, la ménopause était un non-événement, ferme les guillemets, analyse la sociologue Cécile Charlap. Elle n'était pas évoquée comme une rupture, mais relevait plutôt du konenki, un concept plus large, où les cheveux grisonnants, la vue déclinante, la fatigue au réveil ou encore le mal de dos étaient des marques du vieillissement bien plus fortes que la ménopause. Et le konenki concernait autant les hommes que les femmes. Jusqu'aux années 1990, cette vision prédominait. Mais les derniers travaux sur ces questions montrent que depuis une trentaine d'années, l'industrie pharmaceutique a massivement investi le marché asiatique, où la ménopause est désormais traitée comme si elle relevait d'une pathologie. Voilà qui est bien étrange. La fin des règles s'est muée en problème lorsque le discours marketo-pharmaceutique l'a désignée comme telle. Cela illustre que la ménopause n'est pas seulement un fait biologique, c'est aussi une production sociale. La manière de penser celle-ci est le fruit des représentations, des valeurs et des normes qui prévalent à une époque donnée. Pour s'en convaincre, il suffit de passer au crible le regard posé par les médecins sur le sujet, comme elle l'a fait dans sa thèse. Cécile Charlap, la fabrique de la ménopause. Le regard médical est toujours le creuset d'une morale, souligne Cécile Charlap. Les prostituées, filles aux mœurs légères, souffriront bien plus des troubles associés à la fin des règles que les mères de famille pieuses et pratiquantes, assurent les blouses blanches de l'époque. Les premières afficheront en outre de sérieux désordres mentaux, explique le docteur Gardane, au premier rang desquels l'hystérie. Ah, l'hystérie. Du grec hystère, apparenté au latin hystera, la matrice pouvant signifier les entrailles ou l'utérus. Cette prétendue névrose a été attribuée aux femmes par des générations de psychiatres. Beaucoup voyaient dans la ménopause un des déclencheurs de troubles psychotiques. Le tableau clinique qu'ils en dressaient vaut son pesant de cacahuètes. Bouffées délirantes, fureur sexuelle, exhibitionnisme, kleptomanie. C'est dire que dès que l'on se penche sur le corps des femmes et son traitement, les normes patriarcales et la façon dont elles définissent les rapports entre les sexes apparaissent au grand jour. Dans les années 1930, le regard sur la ménopause évolue. Elle n'est plus vue comme la cause de divers maux, mais devient le mal à traiter, en particulier par les cocktails hormonaux qui prennent peu à peu leur essor. Le corps féminin est décrit comme étant contrôlé par les hormones, telle une marionnette infantile. Il s'agit donc de pallier les manques engendrés par la ménopause. Comme si le standard du corps féminin était celui de la femme en âge de procréer et en excluait tout autre. S'il s'est généralisé aux États-Unis à partir des années 1960, puis en France dès les années 1980, le THS, traitement hormonal substitutif, est aujourd'hui considéré avec une certaine méfiance, surtout depuis la publication au début des années 2000 d'une étude américaine établissant le lien entre son utilisation et le cancer du sein. Ouvrez les guillemets. Ces traitements sont aujourd'hui bien moins prescrits, mais ils restent utiles dans certains cas. Fermez les guillemets. Détaille Anne Gompel. Au ton soudain prudent de sa voix, je devine que le sujet lui tient à cœur et que les polémiques parfois contre-productives sur le sujet la lassent, ouvrez les guillemets, chez les femmes ménopausées très jeunes, il limite les risques cardiovasculaires et l'ostéoporose liés à la baisse du taux d'estrogène, fermez les guillemets. Le discours ultra-médicalisé concerne également les grossesses tardives. Passé 40 ans, les grossesses sont décrites comme à risque. Dans la presse People, le cas des mères donnant la vie à 45 ans ou plus est régulièrement évoqué à grand renfort de clichés sur le refus du passage du temps. Un discours qui n'a guère d'équivalent sur les hommes. Il est bien plus rarement mentionné que l'âge avancé du père présente également des risques physiologiques et psychologiques pour l'enfant. Dit autrement, même si la ménopause physique intervient vers la cinquantaine, la ménopause sociale, selon l'expression de la sociologue Yvonne Verdier, survient dès 45 ans, âge auquel les femmes sont enjointes à cesser d'avoir des enfants. Voilà, ce très long texte sur la ménopause m'a paru extrêmement intéressant et c'est certainement l'un des meilleurs textes du livre de Marie Charelle, Qui a peur des vieilles, paru aux éditions Les Pérégrines dans la collection Genre. C'était le Proton se rebiffe et nous nous revoyons tous les troisièmes lundis du mois à 21h. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le Proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Macron parle de révolution. Un jour toutes nos chansons, ouais, vous désarmeront. Il y aura toute la folie, la joie et l'anarchie. La joie et l'anarchie. La joie dans Paris et Bruxelles. Croyez-moi, bientôt, les flics auront du boulot, car tous les vagabonds parlent de révolution. Un jour, toutes nos chansons, ouais, vous désarmeront. Il n'y aura plus que la folie, la joie et l'anarchie. La joie et l'anarchie, la joie dans Paris. Avec vous, messieurs, dames, ce soir, merci beaucoup.
Plus de 5 marches au long du petit escalier. L'eau a monté plus de 5 marches depuis que l'on s'y asseyait. Les marguerites et les rayures, les Pères Noël et les palmiers. L'eau a monté plus de 5 marches au long du petit escalier. L'eau a monté plus de 10 marches au long du petit escalier. Déjà les arbres du square se cachent, le gardien se sera noyé. Tu danses toujours près d'ici, ils n'auront donc pas compris que l'eau a monté plus de 10 marches au long du petit escalier. Bien plus de marches que n'en avait l'escalier. Il fallait qu'un jour le ciel se fâche, c'est tout Paris qui s'est noyé. C'est peut-être ma faute, gens n'aimer une autre et ne pas te laisser rêver. J'aimais t'en tenir ta main, mettre ma tête sur ton épaule. Je n'osais pas te dire que je ne voulais pas me marier avec toi, ni vivre avec toi, ni coucher avec toi. Je voulais que tu sois mon ami. Maintenant tu pleures, et c'est ma faute. Au bord du petit escalier.
Radio Libertaire 89.4.
À cette époque-là, dans la grande plaine, les apaches, œil de faucon, griffes de lynx et pieds légers, attaquaient tous en cœur et à grands coups de hache, à peine sitôt que ça bougeait. Les gros bisons, petits bisons, vieux bisons et leurs vaches risquaient à tout moment de se faire piéger, et pas une loi, du moins à ce que l'on sache, qui puisse venir les protéger. Pour défendre dame nature, l'homme blanc vint à se fâcher, mais les Indiens ont la peau dure, des ballons ricochés. Si bien que quand dans les pâtures, les apaches furent couchés, on releva des traces sûres d'animaux très touchés. C'est comme ça, mon petit garçon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Mon petit garçon, qui sont morts les bisons. Il ne faudrait pas oublier non plus que les chiennes s'entassaient quasiment tout nus sous leur tipi, sans électricité, sans égout, sans hygiène, une espèce de vie de hippie. Pas de dispensaire, pas de péripatéticienne, disons le mot, c'était le vrai bordel. Et puis pour l'odeur, alors là ça fleurait bon la hyène, ou qui sait, peut-être même pire. Pour qu'ils fassent grande toilette, le blanc leur offrit l'eau de feu, mais par hasard une allumette fit tout cramer chez eux. C'était un peuple un peu pompette, mais les bisons sont morts nombreux. On ne fait pas une omelette sans casser quelques œufs. C'est comme ça, mon petit garçon, que l'histoire se précise. C'est comme ça, mon petit garçon, qu'ils sont morts, les bisons. Pour bien comprendre, il faut savoir aussi que les Comanches, les Navajos, les Crocs, les Sioux, les Iroquois ne se prenaient pas exactement pour des manches quand ils portaient l'arc et le carquois. Ces peaux rouges non contents d'exciter la race blanche en arborant à son égard un air narquois se mirent à danser et chanter la revanche. On se demande encore pourquoi. On leur donna du missionnaire, mais le totem n'en voulut pas. On fit donner les militaires, le sorcier les scalpa. Pour les civiliser, que faire ? Buffalo Bill passait par là, il massacra du mammifère, tant qu'il les affama. C'est comme ça, mon petit garçon, pleure pas, je te fais la bise. C'est comme ça, mon petit garçon, qui sont morts les bisons. Si tous les Indiens de toutes ces tribus de naguère docilement avaient accepté le carcan, au lieu de déterrer le tomahawk de guerre, à peine que l'on prenait leur camp, les grands troupeaux des grosses pépettes aux mœurs grégaires ne se seraient pas tous volatilisés quand il n'y eut plus un seul, enfin disons plus guère qu'un dernier Mohican. Les Indiens refusant la dèche, tu sais, furent mis à raison, mais sur leurs tombes encore fraîches, plus l'ombre d'un bison. Par le feu, la poudre ou la flèche, par le suicide et le poison, tout était mort, y a pas mèche, jusqu'aux quatre horizons. C'est comme ça, mon petit garçon, que finit l'histoire grise. C'est comme ça, mon petit garçon, qui sont morts des bisons.
Assis sur le bord de la roche, falaise blanche et ciel tout proche, je regarde le monde en bas. Je vois les routes où l'on se presse, les doigts du soleil qui caressent les cimes des sapins là-bas. Pas un souvenir, une trace d'un nuage léger dans l'espace, c'est peu de dire qu'il fait beau. L'après-midi serait parfaite, mais voici que vient dans ma tête un nom lointain, Guantanamo. D'ici les gens sont dérisoires, petits leurs soucis, leur histoire, dans la brume bleue de la plaine. Village jeté dans les champs, maison minuscule cachant quelques bonheurs et quelques peines. Elle a plongé dans la beauté, je respire la liberté, plus bas que moi plane un oiseau. À peine si le vent se plaint dans les branches tordues des pins et murmure Guantanamo. C'est très loin, par-delà les mers, cerné de gris, bâti de fer, sans loi ni droit, une prison où des hommes sortis du temps sont brisés, niés, sans jugement, plus d'existence et plus de nom. Menottes, caméra, c'est ici, sous ces blancs tropiques, la civilisation, degré zéro. Quelle que soit l'horreur du forfait, chacun a droit à son procès, oui mais pas à Guantanamo. Je me rappelle, excusez-moi, dans le brouillard, certains qu'on voit partant de nuit vers la mort lente. Qui sait comment cela revient, la bête immonde n'est pas loin, elle est sournoise, elle est patiente. Voici que le couchant rosie la paix du soir, comme l'on dit, sur les monts pose son manteau. me reste à prendre le chemin, et puis pour demeurer humain, à pardonner Guantanamo.
Des vignes, des pierres, le bruit du vent. Toi, tu m'apprendras la panthère, le chat, le renard et l'oiseau, le cri blessé du solitaire, loin du troupeau. Nous apprendrons à voir les choses et leur pourquoi et leur comment. J'aurai l'innocence des roses, des enfants, comprendre la fleur et le fruit, comprendre le monde aujourd'hui. Tu m'apprendras tes yeux de fleurs, tes bras colliers, tes hanches flammes, ton rêve abeille et crève-cœur, femme. Je serai l'ombre qui te suit, cette part toujours en nous-mêmes, qui se dérobe à l'autre et fuit ce que l'on aime. Nous apprendrons à nous connaître en jetant bas les interdits. Je serai la fenêtre ouverte et toi la nuit. Comprendre la fleur et le fruit, comprendre ce qui nous unit. Nous conjuguerons l'avenir à chaque instant présent dans toi, en partageant le vin, le rire avec ceux-là plus haut que leurs songes, qui haïssent la solitude, qui chassent l'ombre et le mensonge des habitudes. Nous apprendrons à voir le monde avec ces hommes d'aujourd'hui, dont les rêves aux nôtres se fondent à l'infini. Comprendre la fleur, comprendre l'homme d'aujourd'hui.
Au coin des rues, change de masque, devient statue. Outre les cierges et les piliers, elle est la Vierge des foyers. Mon cœur s'emballe sous le vitrail, elle détale épouvantail. Elle revient, c'est la diva, ou c'est le chien noir du sabbat. Mon cœur se saoule, perdant son sang, mon cœur s'enroule comme un serpent.
Thank you. J'ai quelques chèvres, des cœurs.